Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 24 mai 2022. S'il y en a parmi vous qui ont cru un bref instant que le rebond d'hier était le rebond que l'on attendait et que nous étions enfin repartis en direction de la hausse et que la fin du monde était moins proche qu'avant, je crois pouvoir dire que vous êtes un peu emballé un poil trop vite. Effectivement, hier, tout était le mieux, était pour le mieux et soudainement, on retrouvait presque une journée normale où les investisseurs n'étaient plus en mode courage, fuyons, mais plutôt en mode allez, on y retourne. Pourtant, lorsque l'on faisait le bilan économique, et les constatations techniques qui s'imposaient, il y avait quand même un arrière-goût de méfiance. Alors pour être franc avec vous, je ne sais pas du tout quel goût peut avoir la méfiance. J'ai bien été chez Ben & Jerry et Häagen-Dazs pour demander des glaces au parfum de méfiance, mais apparemment, ça n'existe pas. Dans ma tête et dans mon cerveau reptilien, ça a vraiment un sale goût parce que chaque fois que j'achète dans ce marché, j'ai l'impression d'être une caille relâchée en plein air lors d'une partie de chasse pour des types complètement bourrés. Pléonasme pour chasseurs et qui chassent à la Kalachnikov. Je sais que je n'ai presque aucune chance, mais comme ils sont ivres morts, il y a quand même un peu d'espoir. Mais ça fout les jetons quand même. Quoi que l'on veuille bien en dire, le marché est pourri, malade, inquiet et bien plus réceptif aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Il faut reconnaître qu'hier, ça allait mieux. Mais malgré cela, on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il allait se passer un truc de mauvais dans les heures à venir. Et ça n'était pas complètement faux, on allait le savoir after close. Dans l'intervalle, les bourses mondiales se sont fait plaisir et se sont dit que finalement, il y avait un truc à gratter. Et puis qui sait, ce rebond pouvait aussi bien durer une semaine, avec un peu de chance. En fin de semaine dernière, nous avions vu que le marché était entré en phase de capitulation, de manière très discrète, mais de capitulation quand même. En effet, lorsque l'on voyait la manière dont des titres comme Coca-Cola et Procter & Gamble avaient été attaqués sous prétexte que le consommateur allait arrêter de consommer, on avait clairement l'impression que certains intervenants avaient grillé un fusible. Il est vrai que l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que l'inflation est une éventuelle récession à venir pourrait couper la dynamique économique et la politique d'argent facile dans laquelle nous sommes. Mais de là à forcer le consommateur à ne plus acheter de Pampers ou de Coca-Cola, j'ai comme un doute. Encore, le Coca, je peux comprendre, il suffit de passer du temps avec un diététicien et un bricoleur pour vous dégoûter à vie d'acheter du Coca. Le diététicien pour le taux de sucre qu'il y a dedans et le bricoleur pour qu'il vous montre comment décaper la rouille avec du Coca. Mais alors que les investisseurs étaient en mode « qu'est-ce que je peux bien virer de mon portefeuille qui n'a pas encore baissé ?», le marché s'est tourné en direction d'un secteur mal aimé qui a tendance à bien se comporter quand les taux montent parce qu'ils peuvent se goinfrer sur le dos des clients, le secteur bancaire. Hier, JP Morgan a révisé à la hausse certains de ses objectifs trimestriels alors que le reste du monde est en train de se mettre en position d'atterrissage d'urgence et relise encore une fois les conseils sur la feuille plastifiée dans le siège devant eux pour savoir où sont les sorties de secours. Le secteur bancaire a donc littéralement explosé à la hausse, JP Morgan prenait 6% et c'était plus ou moins le même tarif pour tout le monde. Si la journée d'hier était belle, elle l'était encore plus dans le camp des bancaires. Et puis pendant que tout le monde trouvait ça beau de voir tous les indices du monde dans le vert et en profitait pour prendre des photos souvenirs parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer, il y avait aussi Broadcom qui confirmait qu'ils étaient en discussion pour acheter VMware pour $140 par action. Le titre prenait 25% et clôturait à $120. Il y a encore un bout de chemin à gratter, mais en ce moment, les takeovers, on s'en méfie, surtout après l'histoire Twitter qui s'enlise, surtout après ce qui s'est passé hier soir, after close. Mais cependant, rien qu'à l'idée d'imaginer que dans ce monde troublé, il puisse encore y avoir des sociétés qui sont d'accord d'en racheter d'autres pour 40% de plus, en supposant même qu'un jour ils allaient faire de l'argent avec, mettait du baume au cœur, puisque ça voulait dire qu'il y aurait un après la crise, un après la récession, et que potentiellement on n'allait pas tous y rester à cause de la variole du singe ou de la rhinopharyngite du rat, voire même de l'eczéma de la grenouille. En plus de Broadcom qui tournait autour de VMware, on avait aussi Electronic Arts qui annonçait son intention de trouver un partenaire pour se paxer, laissant présager de plus en plus de rapprochements dans certaines industries, des rapprochements qui allaient demander l'intervention des banquiers d'affaires, qui allaient pouvoir facturer des commissions bien grasses pour leurs conseils, et ça, plus les taux qui montaient allaient rendre les banques très très riches et les banquiers très heureux. Et à eux tout seuls d'ailleurs, ils devraient pouvoir remplacer le consommateur qui est en train de craquer. Bref, hier, les bourses mondiales étaient heureuses et le Dow Jones, on a même profité pour afficher sa meilleure journée depuis au moins 3 semaines. Waouh ! Depuis 3 semaines, hein, c'est de la folie quand même. On se demandait, même si on n'était pas en train de rentrer dans un nouveau bull market séculaire, mais ça, c'était avant la clôture. Pour être franc avec vous, je ne veux même pas savoir ce que Tarzan a fait avec Cheetah pour nous ramener la variole du singe, mais disons que ça va au moins donner du boulot aux anciens experts du Covid sur Facebook qui étaient devenus intermittents du spectacle depuis la disparition des masques dans les transports publics. Toujours est-il que depuis quelques jours, la variole du singe a fait son apparition et les marchés financiers ont déjà commencé à se documenter sur le sujet. Alors pour faire court, ce truc existe déjà depuis des années, mais est généralement localisé plutôt en Afrique, sauf que là on a déjà 92 cas qui ne sont pas en Afrique et tout le monde est au bord de la panique. 92 cas. Même Biden a parlé hier. Ils veulent déjà lancer des vaccins en grande quantité, alors que la contagion a l'air quand même un peu différente que celle du Covid. Mais passons, alors que l'on se demande encore quel est le risque réel. On entend déjà dire que l'Europe se demande s'il ne faut pas préparer des nouvelles règles sanitaires et des nouveaux confinements. Bah oui, ça fait quand même 3 semaines qu'ils ont arrêté de nous prendre la tête avec leur Covid. Faut bien trouver autre chose. En attendant, dans le monde merveilleux de la finance, on a trouvé autre chose, les titres qui sont supposés profiter de la variole du singe. Et puis ça tombe bien parce qu'il y a une boîte américaine qui a reçu un approval pour un médicament Lacontre juste la semaine dernière. Quelle belle coïncidence! On dirait un scénario de film américain. D'ailleurs, c'est un film américain. La société en question se nomme Siga Technology et travaille en collaboration avec Meridian Medical qui appartient à Pfizer. Mais quelle coïncidence! On dirait un scénario de film américain. Ah, non. Zut, ça j'ai déjà dit. Bref, mis à part Siga, il y a aussi la société danoise Bavarian Nordic qui est la seule à produire un vaccin approuvé contre le virus de la variole du singe. Le titre a pris 100% après avoir signé un contrat avec un pays qui a préféré garder l'anonymat. C'est trop chou, vraiment. Et puis, il y a Emergen Biosolutions qui produit un vaccin contre la variole qui pourrait être utilisé pour traiter la version simiesque. En hausse de 45% sur une semaine, la société a également acheté des droits de médicaments antiviral produits par Chimerix, qui elle reprend 55%, mais qui a perdu 75% sur un an. Il va donc falloir des singes et des vaccins pour récupérer le terrain perdu. En tous les cas, préparez-vous à voir les experts Facebook saison 2 qui vont venir nous faire des théories sur la variole du singe et sur le fait que c'est le même scénario que dans le film sur les virus avec Dustin Hoffman. Ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, on a vraiment plus le temps de s'ennuyer. Ce matin, l'Asie est dans le rouge avec une belle unité. Le Japon recule de 0,5%, Hong Kong de 1,29% et la Chine est en baisse de 0,7%. Il faut dire qu'on aurait pu s'attendre à mieux avec le fait que Biden soit enclin à baisser les tarifs douaniers avec la Chine, tarifs qui avaient été mis en place par Trump en son temps. On ne sait pas si c'est le fait que le grabataire de la Maison-Blanche ait aussi annoncé qu'il défendrait lui-même Taïwan avec sa ceinture et son couteau suisse en cas d'attaque chinoise qui a cassé l'ambiance, ou si c'est le profit warning de Snapchat qui a tout foutu par terre. En tous les cas, l'Asie est dans le rouge, on s'inquiète de tout et je ne suis pas loin de penser que toutes les bonnes intentions que l'on a mises dans nos achats de la veille vont être remises en question aujourd'hui. Pour le reste, oui, Snapchat a fait un profit warning sur leurs chiffres du reste de l'année, mais c'est pas leur faute, hein. C'est à cause de l'économie qui va pas bien, et du coup, leurs utilisateurs ont moins envie de se déguiser avec des filtres et de se mettre des oreilles de lapin ou des nez de cochon. Du coup, forcément, le business s'en ressent. Les intervenants ont moyennement apprécié la nouvelle. Hier soir, le titre se faisait défoncer de 30% after close, et le prix d'ouverture indicatif est de 15,50. Pour information, le titre valait 82,50 le 21 septembre, C'est plus du ralentissement économique, là c'est carrément de la faillite. Dans le sillage de Snap, on notera que Facebook se prenait 7% dans les dents et que Twitter reculait de 4% de plus. À ce rythme-là, Musk va pouvoir acheter la boîte à moitié prix. Ça tombe bien parce que Tesla vaut de moins en moins cher et que ça va se compliquer à cause de l'argent si ça continue à ce rythme-là. La transition est donc toute faite, le patron de Tesla fait encore et toujours parler de lui, alors que le titre Tesla continue de baisser et clôture sous les 700$ pour la première fois depuis bien longtemps. Un analyste technique en profite pour expliquer par A plus B que le graphique a confirmé un double top et que le prochain objectif c'est 540$, ce qui va aussi poser problème à Musk qui va devoir vendre des titres pour payer Twitter. Les commentaires sur ce qui se passe autour de Tesla sont massivement négatifs et ne plaisent pas aux investisseurs, sans compter que les chiffres de Xingpeng en Chine étaient mauvais et que la production prend du retard en Chine à cause des confinements. Et encore, la variole du singe n'est pas passée par là. Et puis, les problèmes de harcèlement sexuel persistent, sans compter que si l'on se base sur l'affaire Snapchat, Musk paierait clairement Twitter beaucoup, mais alors beaucoup trop cher. Mais ça n'est pas tout. Hier, il y a également eu un reportage sur Tesla qui est passé sur Hulu, un reportage qui attaque frontalement le système de pilote automatique des Tesla, estimant plus ou moins que c'est de la daube, et que les taxis autonomes promis par Musk pourraient bien arrivé en 23 comme prévu, mais plutôt en 3023 qu'en 2023. Bref, pas que de la bonne presse sur le dos d'Elon Musk, et ça, ça n'est pas sa mère de 70 ans qui pose en maillot de bain en couverture du Sports Illustrated qui va suffire pour faire diversion. Dans les nouvelles du jour, on parle beaucoup de Biden et de la Chine, et je dois dire que je me demande comment il va faire, Biden, quand il va devoir se fâcher pour de bon avec la Chine et la Russie en même temps. Est-ce que Rambo est toujours opérationnel et est-ce qu'il va pouvoir gérer les deux terrains en même temps? On se pose la question. Il y a aussi Zoom qui a publié des chiffres que l'on qualifiera d'encourageants. Le titre a pris 20% after close avant de se raviser. Actuellement, il se traite en hausse de 5% seulement. Mais le truc qui fait le plus de bruit, c'est quand même le profit warning de Snap. À ce propos, Morgan Stanley pense que les révisions des chiffres à venir qui vont se faire ces prochaines semaines vont être la cause de la prochaine vague de ventes sur le marché. Il y a aussi David Rosenberg, économiste et gourou américain, qui a l'impression que nous sommes dans la même situation qu'en 2008 et que le S&P 500 pourrait largement aller à 3300 points. Pour le reste, on notera que le baril est à 109,80, que le Bitcoin est à 29,300, que l'or se traite à 1854. On retiendra encore que Starbucks a fermé 130 restaurants en Russie et quitte définitivement le pays, et que Airbnb eux quittent la Chine. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,6% et on risque de se faire un nouveau retour dont on a le secret. Côté chiffres économiques, nous aurons plein de chiffres du PMI sous toutes ses formes. Et en plus, Powell doit parler ce soir. Ça sera un bon échauffement avant d'avoir les minutes du FOMC meeting qui seront publiées demain soir. Minutes avec lesquelles on va sûrement réussir à jouer, à se faire peur. Côté chiffres du trimestre, nous aurons encore pas mal de retailers dans le domaine des fringues avec Abercrombie, Ralph Lauren, Nordstrom. Si on avait encore des doutes sur le ralentissement du consommateur, on risque d'être servi ce soir. Nous sommes mardi matin et dans 48 heures, c'est le week-end. Passez une très bonne journée, on se voit demain, même heure, même endroit. Enfin, comme d'habitude, quoi.